Radio Kapi.
Jean-Désiré Kanyama à la présentation de votre journal.
Au sommaire, ce midi, commémoration ce dimanche 29 octobre des massacres de Bukavu au sud Kivu, notamment l'assassinat le 29 octobre 1996 de l'archevêque de Bukavu, Mgr Christophe Muzi Wamwenengabo et ses collaborateurs. Des dizaines de personnes vêtues de noir ont marché depuis l'hôtel de ville de Bukavu jusqu'à la place dite Mouziroa au centre-ville de Bukavu. Au Nord Kivu, tenu vendredi dernier à Beni d'une séance de dialogue, de prévention, des stéréotypes et de la manipulation des leviers liés au conflit de leadership. Initié par Interpeace, l'objectif est de contribuer au processus de médiation et de résolution pacifique des conflits liés au processus électoral dans le Grand Nord et en Ituri. L'invité de ce journal est le chargé de communication de la Commission nationale des préventions routières CNPR Nord Kivu. Lougine Zialiroa nous parle des dispositions et conduites à tenir pour éviter les accidents de circulation routière qui, selon lui, font plus de victimes que les épidémies dans le Nord Kivu. Mesdames, Messieurs, bonjour. Sud Kivu, pour commencer ce journal, commémoration ce 29 octobre 2023 des massacres de Bukavu. Il s'agit de commémorer l'assassinat le 29 octobre 1996 de l'archevêque de Bukavu, Mgr Christophe Muzi Wamwenengabo et ses collaborateurs. 27 ans après, les victimes réclament justice, répartition et garantie de non-répétition. Des dizaines de personnes vêtues de noir ont marché depuis l'hôtel des villes de Bukavu jusqu'à la place dite Mouziroa au centre-ville de Bukavu. Un extrait de leur déclaration dans cet extrait choisi par Emmanuel Elamejoua Kabedi.
Nous, population du sud Kivu, venons vers vous exprimer notre douleur interne et souffrance physique liée aux pertes atroces et prématurées des nôtres, arrachées à la vie lors de l'entrée de la AFDEL, RCD, Kundabatware, Mutebusi et les autres. Cette journée du 29 octobre est une journée noire pour la population de Bukavu. À la même date, le sud Kivu avait perdu une bibliothèque, un baobab à la personne de Mgr Christophe Muzi Roy, sauvagement assassiné à Nyawera, avec tous ceux qui étaient avec lui. Les survivants de toutes les atrocités n'ont jamais bénéficié de la justice transitionnelle ou justice judiciaire. Cette date du 29 octobre que nous commémorons est un signe d'un deuil jamais levé, tout en réitérant notre gratitude pour les efforts que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a déjà fournis pour cette cause. En créant Fonarev, nous vous exhortons, Excellence, afin que pareille inhumanité ne se reproduise plus jamais à travers la RDC.
Au Nord Kivu, la situation reste tendue et volatile ce dimanche dans la zone de Kibumba, en territoire de Nyiragongo. Hier samedi, des affrontements à l'arme lourde jusque tard dans la soirée avaient opposé les FARDC et les groupes armés locaux rebelles d'Yom 23 et leurs alliés. Les belligérants sont toujours en alerte. Bernard Nyangui nous fait le point sur le dernier développement de la situation dans la zone.
D'intenses combats se sont poursuivis jusque tard dans la soirée hier samedi dans la partie ouest de l'axe Kanyamaoro et Trois Antennes, dans le groupement de Kibumba et de Bumba. Cette zone de combat est localisée essentiellement dans le parc national de Virunga, au nord de la ville de Goma. Plusieurs sources civiles et sécuritaires précisent que les forces armées font recours aux grands moyens, y compris les attaques aériennes, pour contenir les rebelles et empêcher leur tentative de déborder les positions des FARDC par le parc pour débarquer dans la ville de Goma. Jusqu'à présent, nos sources précisent que les lignes n'ont pas bougé suffisamment. Les rebelles occupent toujours la commune rurale de Kibumba jusqu'au niveau de Trois Antennes. Certaines sources proches des groupes armés locaux parlent d'un renforcement des positions des rebelles à Kibumba par des présumés militaires de l'armée rwandaise. Ce dimanche matin, ces sources indiquent, sans plus de détails, que des combats sont toujours en cours dans cette partie ouest de Kibumba en profondeur, dans le parc national de Virunga. Goma, Bernard.
Et puis, en réaction aux propos du président de la société civile, Force Vive du Maniema, sous la présence persistante des éléments de la 3e région militaire dans le site minier Kabakaba, l'avocat conseil de la société minière de Lubutu, Somil, demande à maître Stéphane Kamundala d'être calme. Selon maître Célestin Ousseni, avocat conseil de Somil, ces militaires sont là sur ordre des autorités provinciales. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Je viens juste pour réagir à l'alerte faite par le président de la société civile par rapport à la présence de militaires à Kabakaba. Je vais demander tout simplement au président de la société civile d'être calme parce que la présence des militaires à Kabakaba n'est pas l'œuvre de la société minière de Lubutu Somil en sigle, mais c'est l'œuvre des autorités provinciales. Et les autorités provinciales, lorsqu'elles ont requis le militaire, elles savent pourquoi elles l'ont fait. Et je pense que lorsque elles vont trouver que les motifs pour lesquels les militaires sont à Kabakaba et terminés, je crois qu'elles prendront d'autres mesures pour les faire partir. Et je voudrais tout simplement appeler la société civile à jouer pleinement son rôle. Parce que la présence des militaires se justifie par les actes barbares qui ont été commis par la population de Kabakaba. Et ça lui revient, comme société civile, de sensibiliser cette communauté à adhérer au processus de cahier des charges et à poser les actes qui sont conformes à la loi. Je crois que lorsque l'autorité provinciale va constater ça, il va lever la mesure.
Nord Kivu, dans la ville de Beni, il s'est tenu vendredi dernier une séance de dialogue démocratique, de prévention des stéréotypes et de la manipulation des leviers liés au conflit de leadership pendant les processus électoraux. C'est une activité qui entre dans le cadre du projet Soutien à la médiation pour la résilience et la paix en Ituri et dans le Grand Nord Kivu. Initié par Interpeace sous le financement de l'Union européenne, l'objectif est de contribuer au processus de médiation et de résolution pacifique des conflits liés au processus électoral. Marc Marofimbo pour les détails.
Participent à ce dialogue démocratique les leaders communautaires, les autorités politico-administratives de la ville et du territoire de Beni, les responsables de sécurité, les acteurs politiques, les organisations féminines, la jeunesse, les groupes et mouvements de pression, les responsables du PDDRCS ainsi que la MONUSCO. L'objectif est de les placer au centre des solutions pouvant permettre de lutter contre l'escalade de la violence et des conflits pendant les processus électoraux en cours, comme l'explique ici Janvier Kassahirio, l'un des facilitateurs de cette activité.
On voudrait un peu donner à la communauté un espace raisonnable, un espace rationnel à travers lequel et la communauté et les candidats et les partis politiques, bref, toute la dynamique politique de réfléchir dans la rationalité à faire passer ces processus dans un climat apaisé pour les élections apaisées comme l'a toujours été attendu par la communauté. En fait, on peut résumer l'attente de la population par une capacité de la communauté et des élus de faire passer ces élections, pas de manière musclée, mais de les passer dans un climat rationnel.
Les participants à cette activité seront chargés de sensibiliser la population pour opter pour un processus électoral apaisé avec des personnes qui peuvent les représenter valablement aux instances de prise de décision. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
En bref, la Commission électorale nationale indépendante annonce dans un communiqué publié hier samedi à Kinshasa la publication de la cartographie des bureaux de vote. La CENI précise que la cartographie publiée est disponible dans les antennes ainsi que sur son site web www.ceni.cd. Les électeurs, candidats, partis et regroupements politiques ainsi que les témoins et observateurs ont la possibilité de visualiser la localisation des centres de vote et bureaux de vote par province, ville, territoire et par secteur, chefferie et commune. La CENI annonce aussi à l'opinion publique que les travaux relatifs à la production de l'atlas électoral sont en cours. Parlons de cette mise au point de la GECAMINE contenue dans un communiqué publié vendredi dernier. Un certain nombre de documents ont récemment circulé dans les réseaux sociaux attribués à l'inspection générale des finances, alléguant que des actes de détournement auraient pu être commis par GECAMINE en 2022 relatifs à des virements réalisés par SIMCO au profit des mandataires et agents de GECAMINE entre octobre et décembre 2022. GECAMINE dément ces allégations et tient à apporter les précisions suivantes. Au premier trimestre 2022, GECAMINE a rejeté les propositions de Glencore en matière d'affectation des dividendes dans le cadre de son partenariat Kamoto Copper Company en raison de leur caractère insuffisant et au regard des résultats de l'année ainsi que des modalités de la gestion passée. Aussi, le conseil d'administration de GECAMINE a désigné en avril 2022 une commission ad hoc chargée de discuter avec KCC et Glencore AG des comptes et de la gouvernance. D'autres précisions avec vous, Alain Hirung.
Dans cette mise au point, la GECAMINE affirme qu'après la phase des travaux préparatoires, la commission accompagnée de ses conseils internationaux a organisé une série de rencontres tenues entre mai et juillet 2022 avec l'INCOR pour contester et réviser les propositions et modalités d'affectation des résultats et revoir la gouvernance du partenariat. Ces discussions ont notamment abouti à un paiement de dividendes de 211 millions de dollars en faveur de la GECAMINE au titre de l'exercice 2021, constituant le premier versement de dividendes jamais effectué par KCC en 20 années d'existence et le plus important dividende jamais perçu par la GECAMINE dans un de ses partenariats. C'est au regard du résultat exceptionnel et inédit obtenu qu'une gratification avait été autorisée par le conseil d'administration de la GECAMINE et payée entre octobre et décembre 2022 aux membres de la commission ad hoc et aux agents ayant concouru à la réalisation de cet heureux dénouement. Ce montant de 211 millions de dollars américains a généré des taxes et impôts pour un total de 71 millions de dollars pour les trésors publics, note le communiqué.
Notez que l'actuel conseil d'administration de GECAMINE ne peut donc que regretter de voir jeter en pâture l'entreprise auprès de l'opinion publique pour des opérations parfaitement documentées au sein de ses organes sociaux et pourtant réalisées en toute transparence en 2022 via des virements bancaires aisément retraçables et retracés, mais malheureusement présentés une année plus tard comme des possibles détournements. Sous un autre chapitre, les organisations de la société civile réunies dans un groupe de travail sous la loi DDH, ONG nationale et internationale, ainsi que les réseaux de protection des défenseurs des droits de l'homme, DDH, manifestent leurs sentiments de joie et de gratitude à l'égard de tous ceux qui ont contribué à rendre effective la nouvelle loi relative à la protection et à la responsabilité du DDH en RDC. Au cours d'une conférence de presse organisée hier samedi à Kinshasa, ils se sont lancés dans une campagne de vulgarisation de la dite loi en vue de son appropriation et son application. Je vous propose d'écouter à ce sujet Maître Henri Wemboloua et Abel Massoudi, respectivement président des AUDF, AUDF ONG et coordonnateur du ReproDev. Ils sont au micro de Jeff Ngoy.
Parce que les défenseurs des droits de l'homme, vous le savez, partout dans le monde et surtout dans notre pays, qui est encore un État jeune en démocratie, sont exposés. Et cette loi, exactement, nous permet de pouvoir retrouver notre cadre de protection et de sécurité pour un exercice continu.
Sur la problématique que peut soulever par cette loi et son application, les défenseurs des droits de l'homme, comme nous l'avons signalé, sont préparés pour réfléchir sur les points forts, les atouts et les faiblesses de la loi en vue d'envisager une meilleure application. Parce que ce qui est suivi, ce qui est visé à travers cette loi, c'est l'assainissement de l'environnement de travail des défenseurs des droits de l'homme.
Autre volet de l'actualité à présent, à Kinshasa, les activités de la Semaine des Nations Unies se sont clôturées vendredi dernier. Regroupant les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies, elles ont tourné autour du thème « Agissons ensemble en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la résilience de nos communautés ». Lancé le 23 octobre, sous l'égide du représentant résident de l'UNESCO, Isaias Barreto da Rosa, les activités ont connu la participation, entre autres, des représentants de la société civile, des femmes et des jeunes. Les détails avec Jeff Opela.
Le but de tenir de telles activités durant 5 jours est d'expliquer et démontrer l'action des Nations Unies dans différents domaines. Droits humains, violences basées sur les genres, santé, volet humanitaire, environnement, paix et stabilisation. Plusieurs experts de ces domaines sont intervenus en mettant l'accent sur les enjeux des objectifs du développement durable ODD qui sont un agenda autour duquel les nations du monde se sont engagées jusqu'en 2030. Au moyen des conférences, débats, des expositions, des projections et des échanges, les participants ont exprimé leur satisfaction de découvrir les réalisations humanitaires menées par les fonds, programmes, agences du système des Nations Unies aux côtés de la RDC. Modeste Kata Nanda, coordonnateur de l'Observatoire congolais des objectifs du développement durable au ministère du Plan, appelle le parti prenante à ses assises à la conscience et à l'accélération d'actions pour atteindre les ODD auxquels il ne reste que 7 ans avant 2030.
Au Maniema, comme vous le savez, le mois d'octobre, dit mois rose, dédié à la lutte contre le cancer du sein, le club des médecins, de cette province est en pleine campagne de sensibilisation des communautés, surtout des jeunes filles. C'est sûr comment se préserver de cette maladie. Docteur François Diboué est membre de ce club. Il nous explique au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes un club médical et pour ces mois, nous sommes en train de réaliser la sensibilisation sur le cancer du sein. Vous et moi connaissons que c'est le mois dédié pour la sensibilisation de lutte contre le cancer du sein, appelé Octobre Rose. D'abord, depuis le début du mois, nous parlons sur le cancer du sein et depuis le début de cette semaine, nous avons pu prendre l'option de passer dans différentes écoles, prendre les filles et leur parler de cette maladie, en quoi est-ce que ça concerne, comment sur le plan mondial, qu'est-ce que ça représente, les complications et qu'est-ce qu'il faudra faire pour en éviter. Les femmes, nous aimerions que toute la communauté soit informée par rapport à cette maladie. Notre communication est beaucoup plus centrée sur les dépistages parce que cette maladie, quand elle est connue tôt, la prise en charge, elle est faisable. Parce que si elle est connue tardivement, cette maladie donne déjà des métastases. Là, ce sont des complications et la mort imminente peut être réalisée. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faudrait parler à ces jeunes filles pour que si elles sont informées par rapport à cette maladie, elles peuvent s'encheminer dans une structure sanitaire pour une prise en charge.
Et puis, le concours de beauté Miss Tanganyika 2023 sera lancé au mois de décembre prochain, 6 ans après l'organisation du dernier concours de ce genre dans la province. Déclaration hier samedi à Kalemie du responsable LASBEL Média pour le développement, une association nouvellement créée. Au cours d'une conférence de presse, Bienfait Mouhamedi, responsable de cette ASBEL, a fait savoir qu'il est temps de promouvoir l'image, la qualité et les valeurs de la femme du Tanganyika. On l'écoute au micro de Paul Mounanga.
Ce qui nous tient à cœur, il s'agit des deux événements que Média pour le Développement entend organiser en tout début de décembre. Alors le premier événement, il s'appelle tout simplement Trophée Tanganyika 2023. Et le deuxième événement, c'est tout simplement Miss Tanganyika 2023. Alors Miss Tanganyika 2023, on en a quand même vu des événements comme ça, des concours de beauté ici. Nous venons juste apporter la touche des professionnels des médias. Et donc l'objectif, c'est celui-là, promouvoir un petit peu l'image, la qualité et même les valeurs de la femme du Tanganyika. Et donc avoir une ambassadrice de beauté en province du Tanganyika qui peut représenter cette contrée dans d'autres concours à travers d'autres sphères. L'association, qu'est-ce qu'elle fait? Il y a quelques productions, notamment des documentaires, des magazines à réaliser dans le cadre du changement des comportements, de la communication pour le développement, et l'association organise également des événements pour passer des messages, pour sensibiliser, pour éduquer les masses.
Une page noire dans cette édition du journal. La presse congolaise en général, et celle de Kinshasa en particulier, est en deuil. Elle vient de perdre ce samedi 28 octobre dans la soirée, ici à Kinshasa même, l'éditeur du quotidien Forum des As, le journaliste José Naouej. Selon des sources professionnelles et familiales, José Naouej est décédé de manière inopinée. La radio Capi présente ses condoléances les plus attristées à la famille biologique et professionnelle de l'illustre disparu.
Actualité internationale.
Aux Comores, pénurie d'eau et manque d'électricité sont à l'origine des rassemblements initiés par Adrikni, un mouvement de la société civile constitué par des femmes, après la prière hebdomadaire de vendredi dernier, place Badjanani à Moroni, sous l'étroite surveillance des forces de l'ordre. Et puis, le chancelier allemand se rend à compter de ce dimanche 29 octobre pour la troisième fois en Afrique depuis son entrée en fonction il y a moins de 2 ans. Olaf Scholz va visiter le Nigeria et le Ghana. Pour sa part, le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, visitera lui à partir de demain, lundi 30 octobre, la Tanzanie et la Zambie. Deux déplacements qui illustrent l'intérêt grandissant de Berlin pour l'Afrique.
L'invité.
Nous recevons comme invité de ce journal le chargé de communication de la Commission nationale de prévention routière, CNPR Nord Kivu. Lougine Zialiroa nous parle des dispositions et conduites à tenir pour éviter les accidents de circulation routière qui font plus de victimes que les épidémies dans le Nord Kivu. Sa structure parle d'un bilan d'au moins 158 personnes tuées et 828 autres blessés dans 1011 cas d'accidents routiers enregistrés de janvier à août 2023 en province du Nord Kivu. Lougine Zialiroa s'entretient à Goma avec Bernard Nyangi.
Monsieur Lougine Zialiroa, bonjour.
Bonjour Bernadette Nyangui.
Honor Kivu, la CNPR révèle que au moins 1011 cas d'accidents de circulation routière ont été enregistrés pendant la période de janvier jusqu'au 30 août de cette année, faisant au moins 158 morts. C'est dans quelle étendue? Est-ce que c'est pour toute la province du Nord Kivu?
Bien, je tiens à préciser que les gens doivent comprendre qu'au Nord Kivu, il n'y a pas que la guerre qui tue, mais il y a aussi les accidents de circulation routière qui sont en train d'occasionner beaucoup de victimes dans nos différentes familles. Il s'agit sur l'ensemble de toute l'étendue de la province du Nord Kivu où nous avons pu répertorier ces statistiques qui sont du reste à déplorer. Comme les accidents de circulation routière ne sont pas une fatalité, nous devons être tous en alerte pour chercher le voisin moyen pour mettre fin ou diminuer toute fréquence des risques d'accident sur la circulation routière.
Parmi ces victimes, il y a aussi au moins 828 blessés. Comment vous assurez le suivi en fait de tout ça?
Vous devez savoir que d'abord la Commission nationale de prévention routière Nord Kivu a des inspecteurs routiers qui sont retrouvables dans tous les territoires et nos trois villes que compte toute la province Nord Kivu. Ce qui fait que ces statistiques nous accèdent à cela facilement. Mais il se pose souvent toujours des problèmes lorsqu'il y a un cas d'accident de circulation routière et qu'on constate qu'à ce moment-là où l'accident venait de se produire, il n'y a pas de gens qui sont qualifiés à ce qui concerne la prise en charge de victimes de manière urgente, c'est-à-dire qui sont dotés donc d'une notion élémentaire en ce qui concerne le mécanisme de protection en matière de santé, c'est-à-dire faire des petites interventions avant que les victimes n'atteignent des structures de référence. Mais lorsque nous parlons de ce nombre de décès, il s'agit des décès qui sont sur place. On ne compte pas des fois des décès qui surviennent à la suite du fait qu'ils n'ont pas survécu, ou deux victimes n'ont pas survécu à leurs blessures. Et donc, ça constitue déjà un problème. Voilà pourquoi nous insistons que les accidents de circulation routière tuent aussi plus que certaines pandémies et épidémies que nous craignons et qui bénéficient de beaucoup de moyens pour les combattre. Pourtant, la sécurité routière est capitale pour toute personne libre parce qu'elle est appelée à pouvoir avoir ce mouvement de circulation sur la voie publique. Et bien, les accidents de circulation routière, lorsqu'ils se produisent, vous allez voir qu'au moins 89% ou 99%, c'est l'homme qui est au centre des accidents de circulation routière. Viendra ensuite la question des contrôles techniques et l'état de la route.
La CNPR devrait quand même avoir des dispositions à votre niveau que vous prenez contre ces accidents-là qui se multiplient encore et encore.
À notre niveau, la Commission nationale de prévention routière a pris plusieurs dispositions qui relèvent de ses attributions parce que je dois le préciser qu'on nous reconnaît ce mécanisme de pouvoir procéder au recyclage obligatoire de tous les conducteurs des engins roulants à moteur ou sans moteur qui doivent bénéficier à ce moment-là d'un brevet de recyclage. Et comme vous le savez, lorsque vous avez déjà ces brevets de recyclage, c'est ces documents qui attestent que réellement on connaît que vous avez déjà une notion suffisante sur le code de la route. Et aujourd'hui, le gouvernement pourrait mettre en place ces mécanismes de pouvoir délivrer encore le permis de conduire, mais il y a des préalables tels que contenus dans le code de la route à son article 70. Et donc, il faut passer par beaucoup d'examens. Et c'est là que nous déplorons. Vous allez voir la province de Nord Kivu, par exemple. Il y a des personnes, et à Goma, il envoie une photo à son ami qui est à Kinshasa, et son identité, et on l'amène un permis de conduire. Sans que la personne ait touché même le volant, et sans que la personne ait une notion suffisante sur la circulation routière, même une petite formation, et il se met à manipuler l'enjeu sans savoir comment on doit protéger ou éviter les accidents de circulation routière. Voilà où nous interpellons tout le monde à pouvoir se dire que si nous nous disons être une organisation non gouvernementale ou beaucoup d'associations qui interviennent dans notre province, se dire voilà, nous sommes là pour la protection des vies humaines. Quel est le paquet que vous allouez aussi en ce qui concerne l'appui à la sécurité routière? Il y a beaucoup d'organisations qui se disent voilà, nous sommes là pour la protection d'enfance. Bien, protéger cet enfant, c'est aussi appuyer les mécanismes de préserver sa vie, comme la CNPR est en train de le faire.
Monsieur le Jeune Ziali, remercie.
Merci.
C'était notre invité, le chargé de communication de la Commission nationale de prévention routière CNPR Nord Kivu. Lugine Zialiro s'entretenait à Goma avec Bernard Nyangui. Fin de ce journal qui a été supervisé par Alain Irung et coordonné par Jacques-Yves Molima. Alain Goy, la mise en onde. À l'air non, je vous dis merci de l'avoir écouté.